en tant qu'insider, donc en tant que lesbienne, on avait déjà identifié un sacré paquet de lesbiennes. Donc au départ, on était parti sur le nombre de 60. Donc on a contacté ces 60 personnes. Et il s'est avéré que uniquement 20 personnes ont répondu à notre demande de participation au livre. C'est vrai qu'on s'est rendu compte au regard du nombre de répondantes qui ont souhaité participer au livre que finalement, se dire lesbienne publiquement, ou en tout cas le dire une nouvelle fois collectivement dans un livre, ça n'allait pas de soi.
Bonjour à tous, je suis Zoé et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Il y a 4 ans sortait le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin, un titre provocateur pour les uns et très sérieux pour les autres. Ce qui est clair, c'est que le titre comporte le mot lesbien. Et ça, c'est pas si courant et ça a été une belle occasion de mesurer ce que ce mot provoque lorsqu'il est prononcé, assumé, brandi. Je lis à la page 17 et non 28 du livre dont nous allons parler dans cette émission. C'est fou comme le monde se crispe quand on parle des lesbiennes. Ce livre, Le déni lesbien, y cristallise beaucoup de faits concrets que je me formule depuis des années, comme beaucoup de lesbiennes sans doute, sans vraiment réussir à les énoncer clairement. Ces petites choses parfois subtiles, parfois pas du tout, ces regards qu'on attrape au vol dans la rue, ces commentaires murmurés, cette attitude un peu gênée d'un ou d'une collègue quand elle comprend qu'on n'a pas de copain. Et oui, c'est de lesbophobie dont je parle, ce terme apparu en 2015 dans le dictionnaire, mais en usage depuis les années 90. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de sexualité. Comme formulé très simplement par notre invité, il ne s'agit pas de coucher, mais d'aimer et de vivre une vie entière en dehors du cadre imposé par l'hétéronormativité. Ce livre, c'est l'occasion de parler ouvertement, entre Gwyn et associés, de déni lesbien. Pour ce fait, je reçois Sarah Jean-Jacques, docteur en sociologie, cofondatrice de l'Observatoire de la lesbophobie avec Sophie Pointurier et autrice. Bienvenue dans notre émission, Sarah.
Merci beaucoup pour l'invitation, Zoé.
Donc, Le déni lesbien, c'est le titre de l'ouvrage que tu as coécrit et qui vient de sortir aux éditions HarperCollins. C'est quoi le déni lesbien ?
Alors, le déni lesbien, en fait, il est double. On souhaitait parler dans ce livre du déni d'existence des lesbiennes et en même temps du déni des violences auxquelles les lesbiennes sont exposées, c'est-à-dire la lesbophobie.
Et au départ, il y a un travail de recherche, parce que toi, tu as écrit une thèse sur l'expérience des lesbiennes dans l'espace public à Paris. Quels résultats tu as trouvé et comment, de cette recherche, est né ce livre ?
En fait, donc, on a cofondé l'Observatoire en 2022, qui était la continuité de notre projet initial, qui était le Tumblr Paytagwin. Donc, on voulait vraiment sensibiliser et donner la parole aux lesbiennes pour s'exprimer sur des faits de lesbophobie dans leur vie quotidienne. On s'est vraiment inspiré du projet Paytechnik de Anaïs Bourdet, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'espace dédié aux lesbiennes pour s'exprimer sur ces violences-là. Et donc, on a créé l'Observatoire en 2022, dans la continuité de ce projet initial, pour vraiment poursuivre ce travail de documentation sur la lesbophobie. Et ce travail au sein de l'Observatoire a été mené parallèlement à mon travail de recherche. Donc, moi, j'ai commencé une thèse en 2016, que j'ai terminée en 2023. Donc, ça a été 8 ans de travail, principalement sur la question de la place des lesbiennes dans la ville, à Paris, dans les espaces publics. Et ce travail a été l'occasion de travailler sur ce phénomène social qui est peu documenté et peu abordé dans les travaux en sociologie, qui est la lesbophobie. C'est un terme qui est apparu donc à la fin des années 90, à l'initiative de la coordination lesbienne en France en 98. Donc c'est vraiment un terme français, où à l'époque il n'y avait pas vraiment d'équivalent en anglais. Et c'est surtout un terme qui a intégré le dictionnaire français, donc le Petit Robert version papier, en 2015. Donc c'est vraiment un écart énorme. Et donc dans le cadre de mes recherches, j'ai souhaité comprendre et analyser ce qu'étaient les contours et les manifestations de la lesbophobie, parce que c'est vrai que, hormis SOS Homophobie qui, non pas depuis ses débuts, parce que l'association avait du mal à recueillir des témoignages de lesbiennes dans les années 90, et la seule association qui travaille sur la lesbophobie, ou en tout cas qui tente de sensibiliser à cette violence-là. Mais du coup, à partir des quelques travaux menés par cette association, j'ai voulu analyser ce phénomène et il est apparu que dans les espaces publics en particulier, même si ça touche les lesbiennes dans n'importe quel espace social, les lesbiennes sont confrontées à un ensemble de violences, notamment des agressions verbales, qui vont les notifier en tant que lesbiennes et les stigmatiser et avoir des conséquences sur leur pratique des espaces publics. Et la lesbophobie, finalement, va structurer leur expérience en public dans la ville.
Cet observatoire de la lesbophobie, vous l'avez créé en quelle année ?
En fait, on l'a créé officiellement, c'est-à-dire que le changement de nom d'association à l'origine, c'était Paytaguin. En 2022, c'est passé à l'Observatoire de la lesbophobie, mais c'est vraiment la continuité du travail qu'on menait avec Paytaguin. C'est juste qu'à partir de 2022, on a créé un site internet pour en faire un centre de ressources et de documentation en ligne sur les parcours lesbiens et la lesbophobie. Donc on va dire qu'on peut dater ça de 2022.
Vous avez reçu énormément de témoignages de plein de femmes en France. Est-ce que vous en attendiez autant ? Est-ce que c'était une surprise ?
Alors, on n'en attendait pas du tout autant parce qu'en fait, on n'avait pas mené une campagne vraiment ciblée pour recueillir en 2022 ou en 2021 des témoignages de lesbophobie. C'était vraiment un questionnaire qui était ouvert à toutes sans campagne précise. On a reçu à peu près 800 témoignages de lesbophobie entre 2018 et 2022. Ça paraît peu, mais comme on n'avait pas mis en place cette campagne-là, ça nous paraissait assez énorme. On a reçu également des témoignages venant de Belgique, de Suisse, de vraiment de plusieurs pays francophones. Et c'est vrai que l'ensemble de ces témoignages nous permettait vraiment de montrer un peu les manifestations et le visage de la lesbophobie qui était encore très peu connu de la société en général.
Oui, parce que j'allais dire, comment on quantifie la lesbophobie ? Parce que ça peut être des mots, des gestes, des agressions, tu l'as dit. Mais souvent, c'est aussi un peu du détail. Comment on fait pour mesurer ça ?
Bah justement, c'est très compliqué de le mesurer. On le dit aussi dans le livre, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est très compliqué à identifier, notamment pour les lesbiennes elles-mêmes en premier. C'est-à-dire que c'est très rare qu'une lesbienne rentre chez elle un soir ou après une journée de travail en disant « j'ai vécu la lesbophobie ». Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que SOS Homophobie recueille très peu de témoignages de lesbophobie. On va dire que la lesbophobie s'inscrit dans un continuum de violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire qu'on peut être interpellée dans la rue en tant que lesbienne avec le sale lesbienne, le goon, qui sont vraiment les étiquettes et les insultes assez classiques qu'on peut identifier en tant que phénomène de lesbophobie. Mais après, ça va être aussi un ensemble de violences verbales, notamment l'hypersexualisation. Ça, c'est quelque chose que j'ai assez abordé dans mon travail de recherche. Mais dans le cadre de notre livre, c'est aussi, par exemple, la différence de traitement au travail, le plafond de verre, qui ne va pas être nommé, mais qui va être identifié par les lesbiennes concernées comme un phénomène où elles vont se dire « il se passe quelque chose qui est lié à mon orientation sexuelle, je ne sais pas l'identifier, mais je sens qu'il y a un vent contraire, qu'il y a quelque chose qui est lié au fait que je sois lesbienne. »
Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de charge hétéronormative dont tu parles beaucoup dans tes recherches ?
Oui, alors en fait, la charge hétéronormative, c'est une charge émotionnelle et cognitive qui pèse sur les lesbiennes, mais aussi sur les gays, lorsqu'ils et elles sont en coprésence avec la population hétérosexuelle. Donc finalement, c'est le fait de s'adapter en permanence, en contact des hétéros, par peur d'une réaction hostile, par peur des violences. Et ça s'exprime dans le cadre des espaces publics, lorsqu'un couple va marcher dans la rue et va se demander si, à tel endroit, il peut se tenir par la main ou échanger un baiser. Mais ça peut aussi s'exprimer dans le milieu professionnel, en famille, dans le milieu médical, dans tout espace où va se poser la question du dévoilement de son orientation sexuelle. Et en fait, je me suis rendu compte à partir de la cinquantaine d'entretiens que j'ai menés entre 2016 et 2019 que les lesbiennes, en fait, en couple, ne se tenaient pas la main ou en tout cas n'échangeaient pas des marques d'affection n'importe où, n'importe quand et en face de n'importe qui. Il y avait toujours une forme d'anticipation pour savoir est-ce qu'il peut se passer quelque chose, est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose et on ne le fait pas. Et donc cette charge hétéronormative, elle découle de mon travail et il s'agissait en fait de mettre en avant une charge émotionnelle et cognitive qui va peser sur les couples lesbiens, mais on peut aussi l'élargir aux couples gays. Elles vont faire attention à ce qu'elles font en couple par anticipation des réactions. Donc par exemple, elles vont arriver, moi c'était vraiment la question des espaces publics à Paris, dans certains arrondissements ou dans certains quartiers, elles ne vont pas se tenir la main parce qu'elles vont identifier un certain nombre de personnes qui pourraient potentiellement les insulter ou les agresser.
C'est vraiment ce mécanisme mental de calculer le risque-bénéfice.
Exactement. Et en fait, c'est vraiment en fait, révélateur de l'adaptation constante des lesbiennes lorsqu'elles sont dans un environnement hétérosexuel. Donc ça peut concerner les espaces publics, mais ça peut également concerner tout espace socio hétéronormatif comme la famille, le milieu médical, le milieu professionnel.
Vous écrivez page 68, « Le dire est un dévoilement du stigmate et on connaît le risque de discrédit qui va de pair avec lui ». Et on sait que un des derniers espaces dans lesquels les lesbiennes, mais les LGBT en général, sautent, c'est le travail. Et vous parlez beaucoup de ça dans le livre. Comment on fait pour déjouer ce stigmate d'être vue comme la lesbienne au travail ?
Généralement, les gens pensent que quand on parle de coming out au travail, c'est arrivé de dire « je suis lesbienne ». Or, c'est, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est de manière un peu plus feutrée, un peu plus subtile. C'est, par exemple, parler du week-end qu'on a passé avec sa compagne, parler de ses vacances, parler de l'anniversaire de sa compagne. Et donc, c'est le fait juste de parler de son quotidien et de parler de sa vie. Et au travail, ça se fait très souvent de cette manière-là. Donc en fait, les personnes qui anticipent la réaction des hétérosexuels au travail vont soit ne pas le dire, pas dire qu'elles sont en couple avec une femme si elles sont lesbiennes, ou bien passer par des mécanismes de contournement, de détournement, en transformant leur compagne en compagnon, en choisissant peut-être les personnes de confiance à qui elles peuvent le dévoiler. Mais en tout cas, il y aura toujours effectivement cette tension entre le dire et ne pas le dire. Et ça va vraiment dépendre des personnes qu'elles vont rencontrer au travail et les personnes en qui elles ont confiance.
Et pour retourner un peu au livre, vous écrivez que Le déni lesbien, c'est un ouvrage grand public hors du cadre universitaire et des réseaux militants. L'objectif, c'était de faire un livre qui puisse circuler peut-être dans d'autres cercles que les cercles militants.
Oui, en fait, bon, Sophie et moi, on est universitaires. Donc moi, comme tu le sais, j'ai travaillé sur le sujet dans le cadre de ma thèse. Et c'est vrai qu'on avait envie d'écrire un livre à destination des lesbiennes, donc pour les lesbiennes. Mais on voulait aussi écrire un livre à destination de leurs proches, de leur famille, de leur entourage et finalement de l'ensemble de la société hétérosexuelle. Et c'est vrai qu'on a voulu rendre accessibles des notions universitaires que certaines connaissent, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs encarts dans le cadre du livre. Et en même temps, on a écrit ce livre parce qu'on considère que la question lesbienne est une question qui est méconnue, qui est malmenée, qui est stigmatisée. Et donc on avait à cœur de pouvoir toucher toute personne qui connaisse des lesbiennes ou toute personne qui ne les connaît pas, mais dont le sujet pourrait leur ouvrir certaines perspectives et certaines réflexions, certaines ouvertures vis-à-vis de la condition lesbienne en France.
Il faut quand même signifier que dans ce livre, donc vous l'avez écrit à deux, mais vous avez interviewé 20 personnalités. Et je voulais un peu te demander comment vous avez articulé ça, comment ça s'est passé, comment vous avez choisi ces 20 personnalités.
Alors, on a voulu interviewer des lesbiennes out. Donc, out dans le sens, et on l'explique au début du livre, c'est-à-dire qu'elles sont visibles en tant que lesbiennes dans leur propre réseau personnel, privé et leur réseau social, donc par exemple Instagram. Mais on a voulu ajouter un paramètre supplémentaire, c'est que leur visibilité dépasse ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on voulait, par exemple, en tapant le nom d'une personnalité avec lesbienne à côté ou homosexuelle, qu'il y ait des données qui apparaissent sur Google, c'est-à-dire qu'elles en ont parlé dans de la presse généraliste, par exemple. Donc ça a été vraiment le critère principal qui nous a permis d'identifier des lesbiennes. Donc comme on l'a dit pendant nos rencontres librairies, en tant qu'insider, donc en tant que lesbienne, on avait déjà identifié un sacré paquet de lesbiennes. Donc au départ, on était parti sur le nombre de 60. Donc on a contacté ces 60 personnes. Et il s'est avéré que uniquement 20 personnes ont répondu à notre demande de participation au livre. Donc ça s'est passé comme ça.
Ça montre que être dans un livre qui s'appelle « Le déni lesbien », c'est pas anodin.
Oui.
Surtout quand on a une carrière artistique, politique. Oui.
Donc en fait, au début, le titre en fait, n'était pas celui-ci. Ça a été vraiment travaillé avec la maison d'édition au fur et à mesure de l'écriture du livre. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, au regard du nombre de répondantes qui ont souhaité participer au livre, que finalement, se dire lesbienne publiquement, ou en tout cas le dire une nouvelle fois collectivement dans un livre, ça n'allait pas de soi.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Comment vous avez articulé les données de ces interviews, de ce qu'elles vous ont confié, de leur vécu de la lesbophobie, avec vos recherches de l'Observatoire ?
En fait, on a construit un guide d'entretien comme en sociologie ou même en traductologie, parce que Sophie est traductologue. Donc on a travaillé un guide d'entretien qui est un peu le matériau classique pour mener des entretiens semi-directifs. Et on avait identifié plusieurs catégories de thèmes qu'on voulait aborder. Donc il y avait la question du coming out, est-ce qu'il y avait un avant et un après ? Et on s'est rendu compte que finalement, celles qui nous ont répondu n'étaient pas concernées par cet avant et cet après. C'était des personnalités qui étaient lesbiennes de fait publiquement. Il n'y avait pas eu cet avant hétérosexuel hormis pour Charlotte Bien-Aimée. Ensuite, on voulait également aborder la question des représentations. Est-ce qu'elles avaient eu des représentations quand elles ont grandi, quand elles ont fait leur coming out dans leur vie personnelle ? Est-ce qu'elles pensent qu'elles représentent des modèles elles-mêmes, vu qu'elles sont les seules à être lesbiennes publiquement ? On a voulu bien sûr aborder la question de la lesbophobie, donc dans leur carrière professionnelle, avec la dimension publique de leur carrière. Et enfin, on a voulu terminer avec la partie vraiment positive et joyeuse, la fierté de se dire lesbienne. Donc c'est comme ça qu'on a construit notre guide d'entretien. Et à partir de ça, on a mené des entretiens qui ont duré entre une heure et une heure et demie. Et donc, on abordait en fait toutes ces thématiques avec elles. Et à partir de ce qu'elles ont dit pendant les entretiens, on a retranscrit, donc, comme je l'ai fait pour ma thèse en sociologie, on a retranscrit tous les entretiens et on a analysé les entretiens. Et on en a retiré des thématiques encore un peu plus fines pour les articuler entre elles. Parce que le bouquin, en fait, c'est pas une succession d'entretiens retranscrits. On a vraiment voulu proposer un travail d'analyse et de mettre en lien les différences que les différentes enquêtées avaient entre elles, parce qu'elles ont des parcours différents, elles ont des profils différents, et en même temps montrer les enjeux communs qu'elles partageaient en tant que lesbiennes avec la dimension publique de leur carrière.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui revient, c'est vraiment cette importance d'avoir des personnalités à qui s'identifier. Et on pourrait imaginer qu'entre, par exemple, une lesbienne de 65 ans et une lesbienne de 20 ans, il y a quand même pas mal de différences, surtout liées à Internet. Mm-hmm. Mais en fait, parfois, pas tant.
Oui, pas tant. Et d'ailleurs, c'était Marie Laborie qui évoquait lors de l'entretien, et on l'a retranscrit dans le livre, qu'elle parlait de Pomme, par exemple, qui, à 26 ans, disait lors d'une interview qu'elle avait manqué de représentation, alors que Marie Laborie est bien plus âgée qu'elle. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, quelle que soit la génération, quel que soit le profil, parce qu'effectivement, on avait à cœur aussi d'avoir différents profils de lesbiennes, que ce soit Fatima Das, qui est de confession musulmane, Élise Goldfarb et Julia Layani, qui sont juives, Tani et Shirley Soignon qui sont des lesbiennes noires. En fait, on se rend compte que malgré les différences de leur parcours, de leur identité, que finalement elles partageaient beaucoup en commun en tant que lesbiennes.
À un moment, vous citez Anne Revillard qui parle de l'identité homosexuelle comme une identité bricolée à l'échelle individuelle. Et j'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'en fait, du coup, pour un peu élaborer, elle veut dire qu'on se fabrique une identité à l'aide des représentations sociales qui sont disponibles, c'est-à-dire en fait assez peu chez les lesbiennes. Et même, du coup, même ces dernières années, avec des médias qui relaient peut-être un peu plus la parole des LGBT, etc., mais on reste quand même sur une invisibilisation très systémique et très lesbophobe, en fait.
Oui, mais c'est ce que disent les 20 personnalités qu'on a rencontrées, c'est-à-dire que toutes ont manqué de représentation. C'est-à-dire que pour la plupart, il n'y en avait aucune. Pour d'autres, il y en avait certaines. Donc je pense par exemple, même pour ma part, c'était ça, c'était le groupe Tattoo à l'époque. Il y avait, je parlais également de Cécile de France dans L'Auberge espagnole, et j'ai été très déçue d'apprendre qu'elle n'était pas lesbienne en vrai, alors que je savais qu'elle était actrice. Et voilà, donc... En fait,
Cécile, rejoins-nous.
Oui, et c'est ce que dit Mathilde Vieux aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'à un moment, ça nous renvoie à notre isolement. Pour elle, c'était Madonna, quand elle a compris que Madonna n'était pas lesbienne, c'était la fin du monde, parce qu'en fait, on a une représentation qui nous dit on existe, les lesbiennes existent, et finalement, en fait, c'est juste pour la performance, c'est juste pour un rôle dans un film ou bien une performance, une scène pour la musique. Et finalement, ça renvoie à son propre isolement. Et pour d'autres, c'est aussi la littérature qui a pu proposer des personnages fictionnels qui permettaient de se projeter, qui permettaient de s'identifier. Mais ça révèle bien le manque et l'absence cruelle de représentation qui permet d'exister dans la société, ou en tout cas de se sentir représenté à un moment.
Vous écrivez aussi que la représentation, c'est une question de justice. Alors, vous ne l'élaborez pas trop, mais ça m'a interpellée. Est-ce que tu peux élaborer.
Une question de justice, c'est-à-dire une question d'égalité, d'équité, c'est-à-dire de pouvoir se sentir représenté, c'est se dire qu'on a une place dans la société, une place égale aux personnes hétérosexuelles qui peuvent se projeter dans des personnages de littérature, des personnages au cinéma. Et c'est vrai que le fait de ne pas être représenté à un moment dans une œuvre fictionnelle, ça révèle bien la place qui est accordée aux lesbiennes dans la société. Donc la question de justice, elle fait plutôt référence à ça, à cette part d'égalité, à ce droit d'être représenté parce qu'on existe à un moment dans la société.
Vous, votre livre, il est quand même plutôt grand public. Donc tu l'as dit, il est quand même publié chez HarperCollins, qui est une maison d'édition assez généraliste. Est-ce que c'était une volonté justement de parler de lesbianisme comme un sujet qui peut être équivalent à n'importe quel... sujets de sociaux, qui soient dans le rayon sciences sociales d'une librairie.
Oui, c'est vrai, c'est ça. C'était, en fait, comme la question lesbienne est malmenée, stigmatisée, on a l'impression, et on le dit dès le début du livre, que le mot lesbienne, il crispe, il cristallise un ensemble de stéréotypes, de préjugés. Ça fait référence à la pornographie, ça fait référence à des femmes qui seraient misandres et qui voudraient la mort des hommes. Et en fait, on voulait aussi lutter contre ces stéréotypes-là, en proposant une autre manière, un autre angle d'approche, pour pouvoir toucher d'une part les lesbiennes en général en France et toutes les lesbiennes, c'est-à-dire non pas celles qui sont uniquement militantes, mais toutes celles qui ont une manière d'être qui ne serait pas forcément attendue comme militant et justement très politique. Et en même temps, on avait à cœur, notamment pour la question de la lesbophobie, vu que c'est vraiment une violence qui n'est pas du tout mise en avant et pas du tout connue en fait en France. C'est pour ça aussi qu'on l'a voulu grand public. C'était aussi pour sensibiliser en fait à la lesbophobie, qui n'est pas du tout reconnue. C'est-à-dire que même jusqu'à maintenant, la journée du 17 mai, le mot lesbophobie n'apparaît pas du tout dans l'énoncé. Donc pour nous, c'est aussi révélateur de la place que les lesbiennes ont dans la société, mais également dans les mondes militants ou dans la communauté LGBT, où c'est toujours un peu les grandes oubliées, les grandes effacées. Donc l'objectif, il était assez double dans ce sens-là.
Maintenant, on a des données concrètes sur des actes lesbophobes. Et je voulais aussi te demander comment vous, avec Sophie, en recueillant tous ces témoignages, vous l'avez vécu ? Parce qu'il y a quand même certains témoignages qui sont très violents. Notamment, à un moment dans le livre, vous parlez de viol correctif. Donc, cette idée qui est apparue en 2008 à la suite du viol et de l'assassinat de la footballeuse sud-africaine Yudi Simlane. Donc, un viol correctif, c'est cette idée selon laquelle un homme qui viole une lesbienne pourrait la rendre hétérosexuelle. Mm-hmm. Ça ne fonctionne pas et le viol est un crime. Mm-hmm. Mais comment vous avez vécu ça, le fait de recevoir cette violence ?
Alors déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de violences lesbophobes en France. Et donc, c'était vraiment un sujet légitime à aborder et à pointer du doigt. Ça a été très difficile pour nous, effectivement, de recevoir uniquement des témoignages de violence. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait évoluer le projet Pétagouine en l'observatoire de la lesbophobie, qui pouvait aussi proposer un ensemble de ressources en dehors des violences. Moi, j'ai une anecdote, c'est que moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai beaucoup abordé la question de la lesbophobie dans le cadre de mes entretiens. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un petit retour de bâton d'analyse, parce que j'ai fait des nuages de mots, j'ai pu analyser justement la lesbophobie et justement les différents types d'insultes qui touchent les lesbiennes dans les espaces publics. Et ça fera l'objet du livre que je vais publier qui s'appuie sur ma thèse en 2026 aux presses universitaires de France. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce qu'en fait, on se rend compte de la violence de la société hétéronormative qui s'impose aux lesbiennes. Et même moi, en tant que lesbienne, c'est-à-dire que j'ai été insultée comme toutes les lesbiennes dans la rue. Heureusement, j'ai jamais été agressée physiquement. Mais c'est vrai que ça rappelle en permanence cette menace qui plane, en fait, sur nos existences. Et c'est pas évident. Mais pour autant, on voulait justement le montrer dans le livre. Et c'est pour ça qu'on a aussi intégré des témoignages de l'Observatoire. On voulait, en fait, faire écho au témoignage des 20 personnalités pour montrer le continuum des violences. C'est-à-dire que la lesbophobie, il y a la partie feutrée, il y a la partie visible de l'iceberg. Et on voulait vraiment faire communiquer ces deux aspects-là de la lesbophobie. Et les témoignages, effectivement, qui sont présents dans le livre sont assez violents. Mais on voulait aussi que l'ensemble de la société se rende compte de cette violence crue et réelle que les lesbiennes vivent au quotidien.
En plus, c'est vrai que souvent, on se dit « Ah, moi, je n'ai jamais été agressée, donc bon, finalement, cette lesbophobie, elle est peut-être moins violente que un pote PD qui s'est fait casser la gueule et tout. » Mais en fait, quand on en parle, on a toutes vécu des choses où on est très mal à l'aise, où on réfléchit à deux fois avant de tenir la main de sa copine et tout. Donc, comme tu dis, en fait, c'est vraiment lever le voile sur une lesbophobie qui est partout et qui est peut-être indirectement violente. Mais qui est très concrète.
Mais qui pèse sur nos vécus,
Pour finir, je voulais te poser une question que vous avez posée à vos invités pour le livre. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une lesbienne connue qui t'a inspirée ou qui t'inspire en ce moment ?
Waouh, c'est... Moi, j'ai découvert Audre Lorde il y a quelques années. Et j'ai lu son livre Sister Outsiders et notamment Zami. Et Zami, d'ailleurs, je me le suis tatouée sur l'avant-bras. C'est un bouquin qui m'a beaucoup marquée parce que c'est une lesbienne afro-américaine, mère de famille, qui a été une des premières, en tout cas à une certaine époque, à parler de son vécu. Et Zami, c'est une forme d'autofiction qui théorise aussi pas mal de choses sur son vécu. Et j'ai beaucoup été touchée, je ne pourrais pas en dire d'autres choses, je ne vais pas conceptualiser d'autres choses, mais c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup touchée, que je recommande à tout le monde. Et je pense que beaucoup de lesbiennes connaissent Audre Lorde et ont lu ses écrits. Mais voilà, ce n'est pas très original, mais en tout cas, moi, c'est dans mon parcours de lesbienne, ça m'a beaucoup marquée.
Je trouvais que c'était une question importante parce qu'on a plein de modèles en fait quand on en parle. Enfin, chacune a un peu son petit panthéon de lesbiennes. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment que Lesbien Raisonnable sur Instagram avait un peu repris votre question.
Oui.
Est-ce que vous connaissez des lesbiennes célèbres en faisant un top 50, il me semble, de, des lesbiennes
ouais,
connues
ouais. C'est ça. Enfin, pas un top 50, c'était un top de lesbiennes qui ont plus de 50 000 abonnés sur Instagram.
Il y avait un 50 quelque part.
Ouais.
Et bah, du coup, on souhaite que cette trend continue et que les lesbiennes soient de plus en plus visibles.
Ouais, c'est clair.
Et bah, merci Sarah Jean-Jacques d'être venue nous parler du livre Le déni lesbien au micro du lobby. Je rappelle qu'il est coécrit avec Sophie Pointurier et c'est aux éditions HarperCollins. Comme chaque vendredi, désormais, nous vous laissons avec une nouveauté musicale choisie avec soin par la team du lobby. Aujourd'hui, nous avons le dernier EP de Maddie Street. Ça sort précisément aujourd'hui et c'est très lesbien. We can flip it like a bottle. Never need to stop. Let's keep it going like a cycle. Don't think I can stop, 'cause this girl is like a model. Streaks, I go both ways, girl, it's round, you're bound to stake. Tell your mom it's not a phase, I'll tell her, but you're on my face. I'm like the blues, brothers on a mission from God. I saw the light in her eyes when I took her for top. Down my mind, is praying I find the right spot. This will send me to hell, but Lord knows I won't stop. Nintendo ho with a purpose, pressing every single little button. I'm strong on top, real princess at the bottom. Thing is, I can't make up my mind. On me dit le français, c'est plus sage. If I wanna find a sign, but under my ribs, c'est tout mon air. Decidedly, I've got to be fier. Cause I'm amused when I fuck with your brain. Plonge un petit coup and you see I'm insane. Bouillon, les pistes, les langues de pressure. La pop parisienne is elitist and precious. So here's my sound, my voix, my mixture. Melting pop of mental illness. Cet épisode a été écrit et présenté par Zoé, réalisé par Colin et mis en ligne grâce à Radio Campus Paris. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et partager nos émissions et à vous ériger contre tout acte lesbophobe dont vous êtes témoin si vous le pouvez. Salut !